nous allons bien commencer cette année en débutant la partie d'histoire des idées et de philosophie et en accueillant l'Ambros Kouloubaritsis. Ça me fait d'autant plus plaisir de l'accueillir ici que c'est notre 10e année de cycle de conférences et qu'il était venu pour les toutes premières séances de ce cycle. Il est professeur émérite à l'ULB, il est directeur des éditions Oussia, il fait partie de l'Académie royale de Belgique, mais aussi de Grèce et d'Arménie. Il est spécialiste de philosophie ancienne et médiévale. Or, ça peut paraître étrange d'inviter un spécialiste de philosophie ancienne et médiévale, mais d'une part, il y a beaucoup de retours à l'Antiquité dans la Renaissance. Et puis surtout, il est très difficile de trouver des personnes pouvant faire un large panorama de la philosophie et n'ont pas parlé sur un auteur en particulier. Et l'Ambros est capable, même pour d'autres périodes comme la Renaissance. Il va aujourd'hui nous introduire à l'humanisme et à la philosophie de la Renaissance.
Merci. Bon, je remercie Anne Staquet. Bon, je suis venu l'année passée, d'ailleurs, il y a 10 ans, c'est vrai, mais l'année passée. En tout cas, je vous souhaite d'abord bonne année et surtout bonne santé. Je crois que si on a la bonne santé, le reste vient. Et, bon, le thème sur la Renaissance, que j'ai pris un peu le rapport entre humanisme et philosophie, est assez compliqué. Vous allez voir qu'en général, on considère que la Renaissance est une période intermédiaire entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Bon, c'est vrai d'un côté parce que la Renaissance introduit à la pensée moderne, au point de vue philosophique, même si l'idée qu'on se donne de la pensée moderne, souvent, c'est dire le premier philosophe de la modernité, c'est Descartes. Donc c'est le père de la philosophie contemporaine et moderne. Et on dit que souvent, Descartes commence avec le cogito, je pense donc je suis, et fonde la philosophie du sujet. Bon, on verra que c'est beaucoup plus compliqué parce que la Renaissance prépare cet événement. On peut même se poser la question si cet événement, la philosophie du sujet avec Descartes, n'est pas, je dirais, un peu surfaite par rapport à tout ce passé qu'il organise. La seconde chose, c'est qu'on essaie de nous dire qu'il n'y a pas véritablement de philosophie à la Renaissance. On essaie de déceler parfois des personnages. On dit d'un côté il y a Montaigne, par exemple. On dit il y a Machiavel. Or, c'est deux philosophes que je ne vais pas traiter ici, puisqu'il y a des conférences sur ces philosophes tout à fait autonomes. Donc, vous allez me dire de quoi je vais traiter si on enlève ces deux philosophes. Bon, en réalité, vous allez voir que c'est plus compliqué et qu'il y a une véritable philosophie de la Renaissance. Et Montaigne et Machiavel ne forment qu'une partie de cette grande philosophie avec beaucoup d'auteurs. Pour vous aider, ce que j'ai fait, je vous ai fait un tableau, un panorama. Et vous allez voir, c'est assez compliqué. Mais je vais essayer de vous l'expliciter gentiment et sans vous forcer et sans violence. Je vais essayer de vous forcer. Mais je vais commencer jusqu'au moment où vous aurez les feuilles en main. Je vais commencer par une petite introduction sur un point. Et je vais demander à Anne, et comme j'ai fait 4 pages en fait, je pourrais te donner tout à l'heure ma clé. Et on pourrait éventuellement le mettre sur Internet, sur email, parce que les pages introductives vont vous aider de comprendre le tableau, en fait, au point de vue. Bon, ici, c'est moi qui parle, c'est plus facile. Mais une fois que vous avez que le tableau, c'est plus compliqué. Bon, je dirais ceci. Il y a 3 choses qu'il faut retenir pour le rapport entre philosophie et humanisme. D'abord, que signifie le terme humanisme? Aujourd'hui, on en parle beaucoup de ce terme. Le terme humanisme est basé sur la notion d'homme et d'humanité. Et souvent, on essaye de dire, donc je donne une première définition. On attribue cette doctrine et sur la personne humaine, sur sa dignité et sur son développement, épanouissement. Ça, c'est la conception actuelle, de certaines façons. Mais à l'origine, les choses étaient plus compliquées. Et quand on a utilisé le terme humanisme, et on l'a pris de l'italien, de l'argot, c'était humanista. C'est un mot qu'on a utilisé dans les universités italiennes par analogie à deux mots qui étaient apparentés, legista et jurista. Donc, les légistes et les juristes. Donc, l'humaniste, c'était quoi? C'était celui qui enseignait ce qu'on appelait, et aux États-Unis, on utilise beaucoup dans le monde anglo-saxon, le mot les humanités, c'est-à-dire, et je vous résume un peu, l'ensemble de ces disciplines, la grammaire, la rhétorique, l'histoire, la poésie et la morale. C'était le premier sens qu'on a donné. Et à partir de là, il y a eu une action, je dirais, véritablement extraordinaire pour essayer de développer ces disciplines. On est revenu à l'Antiquité. Donc, ce qui caractérise l'humanisme, c'est un retour à l'Antiquité gréco-romaine, en fait. C'est ça qui a fait le premier sens de l'humanisme historiquement. Ce retour à l'Antiquité gréco-romaine, surtout comme la Renaissance a commencé en Italie, ça a été surtout des auteurs latins, des romains. Bon, les deux auteurs, à part les poètes, qui ont été très utilisés, mais les deux auteurs, au point de vue philosophique, qui ont été beaucoup utilisés, c'était Cicero et Sénèque. Et il y a eu beaucoup de controverses autour des écrits de Cicéron et en partie de Sénèque. Il y a eu même des gens qui étaient contre Cicéron et d'autres pour Cicéron. Donc l'humanisme italien, où véritablement a commencé l'humanisme, c'est en Italie, s'est beaucoup préoccupé de la poésie latine, Ovide, Horace, ainsi de suite, mais surtout, c'est le point de vue philosophique qui m'intéresse, Cicéron et Sénèque. Mais une fois qu'ils sont rentrés en rapport avec cette pensée latine, ils sont venus aussi aux penseurs grecs. Et les penseurs qui étaient au Moyen-Âge importants, c'était Platon, Aristote. Et on est revenu, bien sûr, au texte de Platon, d'Aristote, et puis aux stoïciens, aux épicuriens, et à la philosophie antique en général. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que l'humanisme, c'est quoi? C'est le retour à la culture antique, globalement, y compris la philosophie. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le côté philosophique. Mais les choses sont plus compliquées. Je vous dis immédiatement pourquoi elles sont plus compliquées. Parce que cette conception est purement, je dirais, philologico-historique, et avec un peu de philosophie. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a dit historiquement la philosophie n'est pas très importante à la Renaissance. Et on nous a dit, bon, c'est pas très intéressant d'étudier la philosophie à la Renaissance. Si vous étudiez un peu Sénèque et Machiavel, c'est déjà suffisant. En réalité, les choses sont plus compliquées. Pourquoi? Parce que quand on regarde de près, il y a eu aussi l'art, l'architecture, bien sûr, beaucoup à la Renaissance, et ça tout le monde le sait, mais il y a quelque chose de plus intéressant. C'est l'émergence des techniques à l'époque, les techniques. Et on oublie souvent que le 15e siècle, c'est l'époque de l'automation. Et quand on commence avec l'automation, nous sommes déjà en chemin vers la modernité, parce que ce qui a fait véritablement le monde moderne et surtout contemporain, et c'est, on peut le dire sans difficulté, c'est la techno-économie. Et la technique et l'économie a commencé véritablement à la Renaissance, d'abord avec les inventions. Et là, on peut dire qu'il y avait on avait beaucoup de gens qui s'occupaient des inventions. Et Leonardo da Vinci, par exemple, pour prendre un exemple qui n'était pas seulement un artiste, c'était véritablement un technicien, c'était un scientifique. C'est un humaniste au sens de quelqu'un qui maîtrise un ensemble de savoirs. Donc la notion d'humaniste déborde le côté littéraire et le retour au poète et à la littérature. Ça implique plus de disciplines que cela. Ça implique l'art, mais ça implique aussi la technique. Et puis on va voir, c'est encore plus compliqué. Parce que quand on regarde de près, et cet élément de la technique sur lequel je m'arrête quelques instants avant d'aller plus loin, cet élément de la technique va jouer un rôle très important au XIXe siècle, après la Renaissance et l'époque moderne. Et c'est la conjonction entre l'économie et l'automation qui va faire le monde moderne. Ce qui fait aujourd'hui la technico-économie, et c'est le lien entre technique et surtout l'automation Et c'est l'automation qui représente véritablement la force de la technique aujourd'hui. Dans cette salle déjà, hein, j'ai un micro, on a de l'électricité, tout ça fonctionne avec des systèmes d'automation. Les ordinateurs, c'est l'automation. C'est l'automation liée à l'économie qui va véritablement faire l'explosion hein, de ce qui va devenir l'époque contemporaine et nos ordinateurs, ainsi de suite. Donc, les automates, c'est important, puisque c'est l'origine de cela. L'économie aussi. Et l'économie commence aussi, il ne faut jamais l'oublier, la Renaissance, c'est aussi la conquête du nouveau monde. Il ne faut jamais oublier ça. Très important. Et cette ouverture vers l'extérieur va non seulement relativiser la culture, sur laquelle je reviendrai tout de suite, mais relativise aussi le caractère central de l'Europe au point de vue économique. L'exploitation de l'extérieur va être très importante au point de vue économique. Donc on voit que la Renaissance est véritablement quelque chose qui crée une rupture par rapport au passé et est à l'origine du monde moderne. Et donc je vais essayer de vous montrer qu'il est plus que ça, il est beaucoup plus autonome. Deuxième élément dans cette, disons, extériorisation par rapport à la philologie, l'histoire et la littérature, c'est la médecine. La médecine a été aussi très importante et le rapport art-médecine a été très important au niveau de l'anatomie. Et à partir de Bézal et d'autres, on a beaucoup travaillé l'anatomie. Donc la médecine a joué un rôle très important. On verra qu'il y a des penseurs comme Paracelse et d'autres qui ont pris la médecine comme référence hein, pour faire de la philo, de la philosophie. Donc en gros, on peut dire que ce n'est pas seulement cet humanisme culturel au sens littéraire, hein, on nous dit souvent, la Renaissance, c'est le retour de l'Antiquité, des textes. Et je reviendrai tout de suite sur les textes. C'est aussi l'ensemble des productions que la Renaissance... C'est la notion de production qui est importante. Bon, si maintenant on va plus loin pour résumer cela, on peut dire, si on met en évidence un ensemble de productions, un retour à l'Antiquité sur des textes qui sont différents de ceux du christianisme, parce que c'est ça un peu le retour à l'Antiquité. Une ouverture vers un au-delà de l'Europe, vers un nouveau monde, immédiatement on comprend que le rapport au divin s'est beaucoup modifié. On n'a plus l'exclusivité de rapport au divin. La Renaissance se décentre tout en gardant, on verra que le divin est très important, la Renaissance, chez les philosophes. Mais disons, en gros, on décentre un peu l'intérêt de Dieu en tant que Dieu, qui était le lieu du Moyen-Âge, hein, où tout était contrôlé par le visible, l'invisible, le rapport à Dieu, c'est-à-dire qu'on fonctionnait avec Dieu, les anges, les morts, les saints, avec tout un système de rituels qui était toujours centralisé au niveau de Dieu. Ici, on décentre un peu et l'homme prend de plus en plus une importance par rapport à ses productions. Il produit des choses. Et donc, il est capable de changer le monde. Il est capable de prendre la décision que la nature peut, on peut agir sur la nature, on peut la modifier. Et c'est cela, en fait, qui fait ce glissement imperceptible vers une nouvelle situation. C'est pour ça que je dirais, en gros, la Renaissance et son lien à l'humanisme. L'humanisme est non seulement un retour à l'Antiquité gréco-romaine, et donc quelque chose de littéraire, de moral, c'est plus que ça, c'est un ensemble de productions, y compris la technique, y compris la science, y compris l'économie, y compris la médecine, ainsi de suite. Donc, c'est l'ensemble des productions. Et donc, c'est la mise en scène de l'homme dans son action. Voilà un peu, en gros, hein, ce qui représente. Maintenant, au point de vue philosophique, et on va voir, je vais prendre quelques exemples, et ça n'a pas été simple. C'est-à-dire que mettre de côté le divin au profit de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui est simple quand on sort d'une époque comme le Moyen-Âge. Et donc, les penseurs de la Renaissance n'ont jamais mis entre parenthèses le divin. Au contraire. Donc, tous les penseurs, et ce sont en général soit des théistes, soit des déistes. Ça veut dire que la différence entre déisme et théisme, c'est que le théisme prend en général Dieu dans sa conception chrétienne, c'est-à-dire Dieu comme créateur du monde, comme s'ayant incarné, donc c'est la notion de Trinité, dont la seconde personne s'incarne. Et donc il y a le problème de l'incarnation qui est très important, et la Trinité. Le déisme, souvent, c'est un dieu de la nature, il est lié à la nature. On peut être, je dirais, pas nécessairement christique, on peut fonctionner avec un Dieu de la nature, un Dieu en dehors du Christ, et donc du christianisme au sens traditionnel. Donc on peut croire à Dieu. On peut créer tout un système de culte relativement à la nature. Et on va voir qu'une des grandes ruptures entre le Moyen Âge et la Renaissance, c'est un penseur sur lequel je reviendrai tout de suite, c'est Platon, qui va retourner au polythéisme antique. Donc c'est une grande rupture par rapport à la conception trinitaire chrétienne. Donc ce n'est plus nécessairement un retour, disons, au Moyen Âge. C'est une nouvelle conception aussi de Dieu, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens, proprement dit, qui n'ont jamais renoncé à la pensée divine. Ce qui veut dire que la Renaissance n'est pas nécessairement une rupture avec le divin. C'est important, hein? Ce n'est pas une rupture. On va voir ça, parce que souvent on dit, à la Renaissance, c'est l'homme qui est le centre du monde. Je dirais non, ce n'est pas si simple. C'est l'homme avec Dieu. Mais tout simplement, il y a un décentrement avec un homme beaucoup plus actif. Hein? Donc c'est la première chose qu'il faut bien saisir. D'autant plus que si on regarde la philosophie moderne, et tous les grands penseurs modernes, sont souvent des gens qui sont des chrétiens. Bon, Leibniz, Descartes, Malebranche, c'est des véritables chrétiens. Donc le divin est toujours présent. Et peu à peu, on rentre avec un divin immanent, par exemple Spinoza et Hegel. Donc on ne met pas aussi facilement qu'on le croit le divin entre parenthèses. Ce n'est que l'époque contemporaine qui, d'une certaine façon, a fait de la philosophie en dehors de Dieu. Et c'est tout à fait contemporain. Et c'est pour voir immédiatement que quand on parle du Moyen Âge, on n'est pas dans une thèse, l'homme est la mesure de toute chose. Hein. Il ne s'agit pas de ça, c'est plus compliqué. Hein. Ce n'est pas l'homme comme mesure de toute chose. Bon, une fois que j'ai mis ça en évidence, on peut maintenant commencer un peu. Et une des premières grandes ruptures philosophiques, on va voir, c'est Platon. Hein. Je reviendrai tout à l'heure. Mais avant de venir à Platon, je prends un peu la thèse traditionnelle et puis on va passer peu à peu vers un glissement, vers ma position. La thèse traditionnelle, j'ai dit, c'est un retour à l'Antiquité. Et dans le tableau que je vous ai donné, c'est la première partie. Et je vais vous expliciter un peu cette thèse hein, traditionnelle qui dit qu'est-ce qui fait la Renaissance, le retour au texte antique. Hein, c'est la thèse qui circule. Et là, je vous ai fait un petit tableau qui est... D'abord, il commence ce tableau par ce qu'on appelle le préhumanisme de Padoue. C'est l'école de Padoue qui va véritablement commencer ce retour au texte antique, surtout Cicéron, Sénèque. Et là, on a un ensemble d'auteurs. Et si vous regardez les dates, c'est pour ça que je vous ai mis les dates de leur mort entre parenthèses, comme ça vous voyez mieux l'évolution jusqu'à l'époque moderne. Et on voit que c'est le début, ils sont tous morts au début du XIVe siècle. Donc ils ont vécu à la fin du XIIIe, XIVe siècle. Or, nous sommes encore à l'époque du Moyen Âge, sauf en Italie, justement. C'est que le Moyen Âge italien n'est déjà plus le Moyen Âge classique. Il crée déjà un déplacement grâce au retour à l'Antiquité. Grâce au retour à l'Antiquité. Bon, qu'est-ce qu'apporte cette Antiquité? Mais justement, elle apporte des penseurs qui croient à un autre type de Dieu. Et c'est la religion gréco-romaine. Donc nous sommes déjà dans un glissement vers une conception du monde qui n'est plus celle qui était christologique et centralisée sur le christianisme traditionnel. Et donc le retour au texte antique est important, puisque ça relativise le christianisme, en fait. On n'a plus une religion, une doctrine absolue et autonome. Nous avons quelque chose de nouveau. Et puis, il s'est passé un second événement. L'Église a créé un schisme interne. C'est ce qu'on appelle la papauté d'Avignon. Une partie des papes se sont réfugiés en France. Et c'est une époque très importante pour la philosophie. Pourquoi? Parce que beaucoup d'intellectuels, en visitant les papes d'Avignon, n'avaient plus ce rapport exclusif avec Rome. Une autre culture était possible. Et donc, en visitant les régions qui était à partir de la Bourgogne et ces régions-là, ils ont pu visiter beaucoup de monastères où il y avait beaucoup de manuscrits. Et donc, ils ont eu un contact avec des textes nouveaux. Et comme c'était la plupart des philologues, ils ont commencé à travailler des textes nouveaux. Et donc, il y a une production qui commençait à se faire, ou bien la plus importante, c'est pour ça que Cicéron est très important, on cherchait les manuscrits de Cicéron, toutes les copies, et on essayait de trouver les textes originaux. Donc, ce travail philologique est important parce que ça crée tout un rapport de décentrement vers des régions qui étaient extérieures à l'Italie centrale, à Rome. Et à l'époque de la Renaissance, les cités importantes, c'était surtout Pavie, Florence. Hein. Florence a été une cité très importante de ce point de vue. Donc là, vous avez un ensemble de penseurs qui vont travailler à cette époque. Puis, on a le moment important, c'est ce que j'appelle la première vague, hein, consolidation de l'humanisme. Et c'est trois penseurs, Pétrarque, Boccace et Zanobi de Strada. Zanobi de Strada, ce n'est pas un grand penseur, ce n'est pas un travailleur qui a véritablement travaillé les textes, mais c'est quelqu'un qui a joué un rôle important parce qu'il était un homme politique qui avait une entrée au mot Cassin et qui a permis à Pétrarque et à d'autres d'avoir des manuscrits que personne n'avait accès. Et donc, il a aidé énormément à répandre des textes qui étaient dans les monastères. Bon, une parenthèse, au Moyen-Âge, les monastères étaient le seul lieu des études, finalement, et véritable. Et on a travaillé les manuscrits, mais les manuscrits, souvent, étaient gardés par les monastères. Il n'y avait pas une démocratisation, je dirais, du livre. Hein. Vous savez, la démocratisation véritable, on va la voir, c'est au XVe siècle avec l'imprimerie. Il fallait attendre l'imprimerie. Qui, ne l'oublions pas, c'est la technique. J'ai dit tout à l'heure, la production, c'est très important. Hein. L'imprimerie, c'est la technique. Et avant, il n'y avait pas de démocratisation de livres. Il fallait copier les livres. Et vous imaginez le travail que ça fait. Hein. Je dis souvent, si nous, on devait travailler sur manuscrit, moi, j'ai fait un livre, une histoire de la philosophie ancienne et médiévale de 1300 pages, en 4 ans et demi, avec toute la technologie moderne, les ordinateurs. Vous imaginez, au Moyen-Âge, 1300 pages, c'était toute ma vie. Non, mais je dis souvent, je suis admiratif à l'égard de ces gens qui passaient leur temps à copier. C'était quelque chose de fabuleux, parce qu'il fallait... Et donc, on trouve dans les manuscrits des erreurs par copie. Nous sommes un peu fâchés pourquoi les copistes faisaient des erreurs, mais bon, nous en faisons aussi avec nos ordinateurs énormément, pour ne pas dire plus. Hein. C'est pour voir un peu la distance énorme hein, qui existe avec ces gens-là. Et là, quel est le rôle de Pétrarque et de Boccace? Et celui-là de Boccace est plus important, à mon avis, que celui-là de Pétrarque, parce qu'il a travaillé beaucoup sur les mythes. Il a travaillé sur les mythes. Et donc, il a permis de donner un aspect de la Renaissance qui est le plus important de mon point de vue, cette interprétation symbolique du monde. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur les mythes anciens à la Renaissance. Et quand on regarde l'art, souvent, on voit l'importance des mythes anciens dans l'art. Donc, avoir une vision du passé, non seulement réaliste, ce que faisaient d'une certaine façon des penseurs comme Sénèque ou Cicéron, encore que quand on regarde les textes de Cicéron, il y a beaucoup de mythes, on regarde Sénèque aussi, mais il y avait aussi les mythes et l'interprétation symbolique des mythes. Donc cette première génération a fait un travail philologique, mais en même temps, elle a promu l'allégorie et les mythes. Et la Renaissance, on va voir tout de suite, est très importante philosophiquement au niveau des textes anciens mythiques. La deuxième vague, et ce sont des véritables philologues qui ont la chance d'apprendre le grec. En 1397, un penseur byzantin, Manuel Chrysoloras, vient en Occident et il va être à la base de l'enseignement du grec. Et cette connaissance du grec va aider la lecture du texte grec ancien. Donc, elle était très importante. Et donc, quand on parle de la Renaissance, souvent, on dit... C'est la culture grecque qui est à la base de la Renaissance. Donc, il faut penser à tous ces gens qui ont enseigné le grec, qui étaient très nombreux et qui ont permis aux gens de la Renaissance de connaître le grec véritablement, le grec ancien véritablement. Et comme il y avait le grec parlé de l'époque byzantine, qui était souvent la koiné, c'est la langue de l'Évangile, qui est très différente de celle du grec antique, il y a eu deux problèmes majeurs. Non seulement les textes, par exemple, moi je suis grec moderne, le grec moderne par rapport au grec de l'Évangile est déjà différent. Et le grec de l'Évangile et le grec moderne est très différent du grec ancien. Et le grec ancien lui-même a plusieurs formes. Hein, entre Homère et Platon, les difficultés sont énormes. Mais il n'empêche que c'est une même langue. Or, ces gens-là sont venus avec une langue de l'Évangile, la Koiné, et ils connaissaient le grec ancien. Donc, ils ont enseigné les deux langues aux penseurs de la Renaissance. Ce qui a aidé ces penseurs de lire les textes chrétiens byzantins, mais en même temps de lire les textes anciens. Donc, les traducteurs ont joué un rôle majeur. Et le premier, ça a été Chrysoloras. Et les premiers véritables philologues qui ont connu le grec, ça a été Salutati et Leonardo Bruni, qui eux-mêmes ont enseigné à d'autres. Puis nous venons à la troisième génération. Et ça, c'est la plus importante. C'est ceux qui ont commencé à faire la chasse des textes, la chasse des textes. C'est-à-dire qu'ils ont essayé véritablement de trouver des textes, de nouveaux textes. Et là, ils ont fait un voyage dans tous les monastères en Europe. Et ce qui a beaucoup aidé, et ce sont aussi, à l'époque, le Concile de Constance a beaucoup aidé parce que beaucoup d'intellectuels ont été à Constance et ils ont visité les monastères de Saint-Gall en Allemagne et ils ont découvert véritablement de nouveaux manuscrits. Et donc, ça a été une époque, c'est comme si aujourd'hui, hein, on cherchait, on a eu ça, par exemple, les manuscrits de la Mer Morte. On a récemment, un de mes collègues de l'ULB, Alain Martin, avait trouvé 54 vers d'Empédocle. Bon, cette chasse à des textes nouveaux a joué un rôle important à l'époque. C'était un moment fabuleux de trouver des textes nouveaux tout le temps. Des manuscrits, bien sûr, d'auteurs anciens, plusieurs copies, mais en même temps, des textes nouveaux. Et c'est ça qui a véritablement lancé la Renaissance. Et c'est comme ça que beaucoup de textes de penseurs byzantins sont venus peu à peu à la surface. Bon, là, on a plusieurs auteurs, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est Bracciolini qui est le plus important. Les autres, les trois autres, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé avec Byzance. Ils ont été à Constantinople et ils connaissaient le grec. Ils ont appris le grec. Ils ont aidé ce travail, mais ce n'était pas les plus importants. Et puis, nous avons la quatrième vague. Et là, nous avons quelque chose de très important avec cette vague. Et le penseur, et les deux penseurs les plus importants, c'est Laurent Valla et Ange Policia. Je m'arrête deux minutes sur Valla. Parce que Valla, qui a introduit la philologie critique, a découvert, par exemple, que des auteurs qu'on considérait comme importants, par exemple, Denis l'Aréopagite, qui était au VIe siècle, a pratiquement copié ou christianisé les textes païens, donc la philosophie du 5e siècle, philosophie païenne, donc le politisme antique. Il s'est approprié ces textes et les a christianisés. Et même, il a été plus loin. Il a joué le rôle comme s'il était le disciple de saint Paul. Hein, donc, c'est pour ça que ça s'appelle Denis l'Aréopagite, parce que le premier disciple de Paul dans les Actes des Apôtres s'appelle Denis. Il a pris ce nom et il a fait des textes qui sont devenus la base de tout le christianisme. Et c'est le texte, le nom divin, la hiérarchie céleste, la hiérarchie ecclésiastique, qui ont fondé tout le système hiérarchique de l'Église. Or, tout ce système a été fondé sur des faux. Hein, c'est bon. Valla a été un des premiers, après Abélard, c'est Abélard le premier, Valla qui a contesté l'authenticité de ces textes. Il a contesté aussi les rapports entre Sénèque et saint Paul. On avait dit qu'ils s'étaient rencontrés. Il a montré que c'était la blague, tout ça. Ce n'était pas juste. Il a été plus loin même. Il a mis en question la donation de Constantin, qui était un texte très important fabriqué au 8e siècle, qu'on a essayé de montrer que Constantin avait donné au pape véritablement des terrains et en même temps le droit d'avoir un pouvoir politique temporel. Et qui a été très important, ce texte au XIIe siècle, pour fonder le caractère universel et politique de la papauté. Valla a montré le caractère caduc de ces textes. Donc c'est un moment important parce que nous avons à ce moment-là des grands philologues. Et Valla va aller plus loin. Elle va déterminer la philosophie sur un point, et je reviendrai puisque je vais centrer pratiquement mon exposé là-dessus. Il va essayer de montrer que ce qui est important en philosophie, c'est la philologie et la rhétorique. Et que tout le système métaphysique, fondé sur la dialectique, et je reviendrai dans quelques instants sur la dialectique, cette dialectique qui a été fondée par Abélard et saint Thomas d'Aquin, cette dialectique est tout à fait orientée, elle est très dogmatique, et qu'elle doit se soumettre à la rhétorique. C'est la rhétorique qui est le fondement du langage. Il y a la grammaire avec la philologie et la rhétorique. Et tout le reste suit. Bon, cela va permettre à mettre en évidence aussi une façon de parler, une façon d'écrire, le style, grâce à la rhétorique. Et donc, on voit ici que la littérature va prendre le dessus par rapport à une philosophie rigoureuse. Bon, à notre époque, quand la logique est devenue très puissante, vers les années 50, et nous avons eu des phénomènes parallèles, et j'ai eu un de mes professeurs de l'ULB, qui a été un des grands promoteurs de cette dissidence, c'était Chaim Perelman, qui a créé la nouvelle rhétorique. Il est revenu à Aristote et au texte de la rhétorique au détriment de la logique. C'est la théorie de l'argumentation. C'est la théorie de l'argumentation. À notre époque, on a créé aussi d'autres mouvements, par exemple l'herméneutique, un peu contre la logique. Et on a eu plusieurs tentations d'aller au-delà d'une logique pure et dure. Justement, ce qu'a fait Wallace, c'était le premier qui a fait un pas vers cette ouverture. Il a mis beaucoup de littérature en évidence, et donc aussi la pensée mythique a joué un rôle important. Et donc, pour terminer cette première partie, je viens à la philosophie proprement dite dans quelques instants, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure, l'émergence de la science et des techniques, avec deux grands penseurs qui étaient Copernic et Leonardo da Vinci. Et il n'y avait pas seulement la littérature, il y a aussi tout ce que ces auteurs ont apporté, et ces auteurs étaient souvent aussi des philologues, ils connaissaient très bien les textes. Ils étaient en même temps aussi des philosophes, hein, donc c'était des gens. Et donc quand on parle d'humaniste aujourd'hui un peu, souvent c'est des gens qui avaient une connaissance fabuleuse dans toutes les disciplines, et c'est ça qu'on appelle un peu souvent l'humaniste. Voilà un premier point. Maintenant, je vais essayer de mettre un peu en question cela en disant, en vous mettant en évidence un peu plus la pensée de l'époque, en montrant aussi que ce n'est pas seulement ce retour au texte antique, hein, mais c'est aussi une réflexion philosophique plus approfondie qui fait la Renaissance. Et je vais commencer par un auteur qui n'est pas simple, mais qui est déterminant, c'est Platon. Bon. Donc c'est la seconde partie que je prends maintenant, hein, de mon tableau. Je commence par Jean-Chrémiste Platon, qui est mort en 1450. Platon, c'est un coup de force historique majeur, parce que Platon va mettre en question le christianisme de l'époque byzantin, et il est mort, comme vous voyez les dates, hein, à la veille de la chute de Byzance. 1453, c'est la chute de Constantinople. Bon, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Constantinople était pratiquement limitée à un territoire très restreint au point de vue géographique, et une ville puissante militairement, mais qui ne pouvait pas faire le poids face aux armées ottomanes, hein, aux armées turques. Et à cette époque, certains penseurs ont commencé à mettre le christianisme en question. Ils ont essayé de montrer que ce n'est pas le christianisme qui a véritablement représenté la culture grecque, mais que la véritable culture grecque, c'était le paganisme, c'était la culture gréco-romaine. Si la Grèce aujourd'hui ne s'appelle pas Byzance, mais s'appelle Hellas, hein, les Hellènes, hein, le terme Hellène, au VIe siècle, représentait les païens, les penseurs païens, qui étaient opposés au christianisme. Et Platon va revenir à cette idée de l'hellénisme, et c'est probablement l'histoire de cette idée qui va faire la Grèce moderne, hein, avec le nom actuel. Et Platon, ce qu'il a considéré, c'est que pour sauver finalement la culture grecque, il fallait revenir au polythéisme antique. Et donc il a considéré que le christianisme était un accident historique, finalement. C'est fou, hein, quand on y pense, qu'un penseur au XVe siècle arrive avec un retour à Zeus, à Poséidon et à d'autres penseurs. Bon, que représente véritablement cela? Et vous allez voir en quoi finalement Platon est le premier grand penseur de la Renaissance. Hein, pourquoi c'est le premier grand penseur de la Renaissance? Bon, il va dire que Dieu, certes, et là c'est son retour à Platon, certes Dieu, un Dieu un, fondement de toutes choses, est une vérité. Il y a un Dieu un qui n'est pas seul, qui est accompagné dans son œuvre par des dieux seconds. Donc l'idée du polythéisme antique, ça a été quoi? C'est que Dieu ne peut pas créer le multiple par lui-même parce qu'il est un. Et donc il fallait des intermédiaires entre le Dieu un et le multiple. Seule une multiplicité de Dieu comme principe des choses pouvait expliquer le multiple. Le passage de l'un au multiple était une erreur logique. C'était ça l'idée des anciens polythéistes. Platon revient à cette idée, mais il garde tout de même quelque chose de toute la pensée chrétienne, c'est qu'au sommet, il y a un seul Dieu, c'est Zeus. Et ce Dieu est à la fois un, à la fois être, il est producteur de sa propre unité et de sa propre, je dirais, essence d'être. Et puis il va mettre un mot des idées. Et pour bien comprendre cela, il faut comprendre que pour les polythéistes antiques, comme pour Platon, il n'y a pas de création du monde. Le monde est éternel. Il y a une hiérarchisation du monde. Ce n'est pas la même chose. Le monde est éternel et donc il y a une hiérarchisation. On a un Dieu suprême, puis nous avons des dieux qui représentent des idées actives. Dans le polythéisme antique, on parlait d'archétypes. Ici, on parle d'idées actives. Ces idées, ce sont des principes des choses. Donc, chaque dieu représente un principe. Par exemple, le principe d'identité, c'est Apollon. Le principe d'altérité, c'est Artémis. Et puis, par exemple, si on prend les quatre éléments, c'est un autre dieu. Si on prend le mouvement, c'est un autre dieu. Donc, toute la réalité a des principes. Et ces principes, ce sont les dieux qui le représentent. Donc, entre le premier dieu et le réel, ici, où on se trouve, en bas, il y a un monde des idées, c'est ça le platonisme finalement, et ces idées, en réalité, ce sont des dieux. Bon, là, vous avez, bien sûr, le caractère symbolique des idées. La réalité, ce sont les idées. Mais on les appelle Apollon, Artémis, ainsi de suite, Poséidon, on les appelle symboliquement. Vous allez voir quel est le sens de cela. Et là, on a une hiérarchie de dieux. On a, première hiérarchie, les Olympiens avec Poséidon et Héra. Deuxième hiérarchie, le Tartare avec Cronos et Aphrodite. Et puis, nous avons une autre réalité qui commence avec le soleil, c'est le monde céleste. Ce n'est plus le monde des idées, des principes, c'est le monde céleste. Hélios est le dieu de tout le ciel, finalement, et du monde qui est le nôtre avec Sélénès et la lune. Hélios est le soleil et la lune. Vous avez les astres, et vous avez les démons, et puis vous avez l'homme. Bon. Une petite parenthèse pour bien comprendre ce système. Ce que fait Platon, il fait exactement ce qu'avaient fait les grands philosophes du polythéisme tardif, c'est-à-dire Proclus, Damascus et d'autres. C'est-à-dire nous sommes entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Ils avaient pris toute la mythologie des origines, donc les théogonies, ils ont dit cette théogonie, c'est une théologie symbolique inférieure. Mais ce que dit la mythologie traditionnelle n'est pas fausse. Tout simplement, elle distord la réalité. Elle distord la réalité. Les poètes ne disent pas la réalité telle qu'elle est, ils la disent par des images, des distorsions. Ce que doit faire le philosophe, c'est redresser ces distorsions et créer le système véritable. Donc ces dieux, en réalité, ils sont symboliques, ils sont mythiques, et le rôle du philosophe, c'est redresser la réalité en prenant ces dieux comme symbole et voir qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité, quelle hiérarchie. Là, nous avons quelque chose d'important, c'est une analyse des mythes traditionnels en les rationalisant, tout à fait. C'est-à-dire, on ne dit pas que les mythes traditionnels sont faux, on dit qu'il faut les redresser. Et ce que reprochait aussi bien Platon que les polythéistes antiques au christianisme, c'est que le christianisme utilise aussi des mythes, mais il les prend pour des réalités. Qu'en réalité, il ne voit pas que ces mythes ils sont pleins d'images fausses. Que dans la Bible, il y a beaucoup de violence. Dieu tue, ainsi de suite, et que cela ne peut pas être pris au premier degré. Sinon, c'est des textes qui sont monstrueux. Et donc, les polythéistes, eux, prenaient ça très au sérieux. Ils disaient, notre mythologie à nous, il ne faut pas les prendre au premier degré, il faut les interpréter. C'est le rôle du philosophe. Le rôle du philosophe, et donc Platon, son rôle, c'était comment redresser les mythes anciens pour faire un système hiérarchique. Bon, voilà un peu le cadre de cette pensée un peu bizarre qui apparaît au moment où le christianisme arrive un peu dans une modification historique, à Byzance d'une part, et aussi en Occident, avec le XIVe siècle, hein, qui a beaucoup modifié la pensée théologique. Maintenant, quelle est l'originalité de Platon au niveau de l'homme? Pourquoi on peut dire que c'est le premier penseur qui centralise un peu l'homme en dépit de ce système assez, je dirais, étrange, hein, théologiquement? Vous avez plusieurs dieux qui représentent finalement un monde des idées, hein, des idées actives. Eh bien, c'est qu'il considère que le monde des dieux, c'est un monde plein. C'est une unité qui est pleine. Le monde du ciel, d'Hélios, est une unité pleine. Mais le monde qui nous entoure a beaucoup de vide. Il y a deux manques à l'intérieur. Et là, il y a un être qui est double, c'est l'homme, qui est à la fois éternel, et là, Platon croit à la transmigration des âmes, la transmigration des âmes, et il va critiquer le christianisme en disant que le christianisme qui croit que l'homme naît du néant et qui devient immortel est tout à fait logique. Parce qu'aucune théorie ne peut prouver que quelqu'un qui vient du néant devient immortel. Donc dire que l'homme va aller au paradis, dit-il, c'est une démagogie des théologiens pour essayer d'attirer le peuple de leur côté, dit-il. Ils veulent séduire le peuple, dit-il. En réalité, l'âme est éternelle, elle s'incarne dans un corps et il y a donc des cycles. Nous sommes dans une pensée de la réincarnation qui est tout le platonisme, hein, depuis Platon, le néoplatonisme, c'est toujours la pensée des néoplatoniciens. Donc c'est un néoplatonicien. Et il va dire ceci, le rôle de l'homme, par ses doubles natures, à la fois qu'il est éternel et est immortel, et en même temps qu'il est mortel, en s'incarnant dans les corps, c'est de remplir le vide dans le monde sensible qui nous entoure, ce vide. Et comment il va le remplir? Par la politique, par l'éthique, par son action, et par la technique. Voilà la notion de production dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la technique qui devient le moyen. C'est pour ça qu'il va s'occuper beaucoup de technique. Il va conseiller les empereurs de produire de la technique, de faire des routes, et donc c'est des ingénieurs. Donc ce sont des ingénieurs qui essayent de suppléer au manque. Et c'est là que naît véritablement l'idée que l'homme doit agir sur la nature pour compléter cette nature. Et de là, on peut dire que Platon est effectivement le premier grand penseur de la Renaissance. C'est dans ce sens-là. Et maintenant, cette pensée qui paraît étrange va plus loin. Parce que tous ces dieux, on se trouve dans un système ritualiste. Tous les jours, il y a une fête pour un dieu. Il y a un calendrier. Nous avons tout un système de rituels dans cette pensée. Et en plus, nous avons une théurgie. Donc, il y a un rapport avec les dieux. Donc, ça veut dire des rites et des hymnes pour les dieux. Donc, je dirais, c'est la théologie pure et dure. Hein. C'est d'une certaine façon, ce n'est pas moins que le christianisme, c'est plus que le christianisme, hein, puisque nous avons un système théologique. Mais elle apporte cette pensée, une modification profonde de la philosophie de l'époque. Et un dernier mot, le terme Platon, en réalité, et vous voyez dans le tableau, je vous ai mis « gémiste ». Son nom véritable, c'est Georges Gémiste. En grec byzantin, gémiste, et en grec moderne, veut dire le plein. Il a changé son nom en prenant le terme archaïque et ancien classique de plein, qui est Platon. En grec ancien, le plein, c'est Platon. Donc, il joue sur son propre nom, le Platon. Et faites attention, si vous regardez, c'est une pensée du plein, de la plénitude. Il joue sur les mots. Le plein du monde des dieux, le plein du ciel et le plein que l'homme doit produire par son action. Et donc, il joue sur son nom, sur le changement de son nom en Platon et avec la pensée qui est la sienne. Et en plus, il se croit comme le troisième grand philosophe de toute l'histoire. Le premier, c'est Platon. Le second, c'est Plotin. Et le troisième, c'est Platon. C'est lui. Hein. Donc, vous voyez, en plus, il y a une mégalomanie derrière cette pensée. Qui se cache hein, derrière tout ce jeu. Maintenant, dernier point que je vous dis, et parce qu'il est très important, Platon était un inconnu à l'époque. Il écrivait en cachette. Il vivait à Sparte, la Sparte médiévale, c'est Mystra. Et si vous avez l'occasion d'aller en Grèce, allez visiter Mystra. Et c'est aussi beau qu'Athènes avec l'Acropole, parce que Mystra, c'était le lieu du Moyen-Âge, et c'est là qu'il a été, pratiquement, il avait un rôle politique majeur. Il a été presque un chancelier, presque un premier ministre. Et parce que c'est une principauté, un ducat, qui était dirigé par Théodose II, le frère de l'empereur Manuel Paléologue. Et donc, il a eu un rôle. Et lui, il avait fait une secte polythéiste. Il avait initié des gens, mais personne ne savait que les textes qui circulaient, c'était à lui, ces textes polythéistes. La personne qui a découvert cela, c'était le penseur qui était juste de l'autre côté, c'est Scholarios, qui va devenir, après la chute de Constantinople, le premier patriarche de Constantinople sous les Turcs, sous le nom de Génade. Et donc c'est lui qui avait un rôle politique important à Constantinople, qui a découvert par sa police que c'était Platon qui écrivait ces textes. Et donc c'est très intéressant, cette histoire de Platon, hein, très intéressante. Mais bon, on la laisse et on avance. Les textes de Platon sont liés un peu à la Belgique, parce que ces textes, en réalité, vont disparaître. Et c'est son élève Bessarion, qui était orthodoxe, et qui va participer à l'époque aux négociations au concile de Ferrara et de Florence pour l'union des églises. Et comme Bessarion a été pour l'union des églises, après la chute de Constantinople, il se réfugie en Occident et la papauté l'a nommé comme cardinal. Et Bessarion a pratiquement recueilli, c'est un homme de la Renaissance, hein, des manuscrits. Il avait une bibliothèque énorme de manuscrits, parmi lesquels il y avait celle de Platon. Il l'a déposé à Venise, et c'est comme ça qu'on a créé la bibliothèque de Venise à l'époque. C'est grâce à Bessarion. Et c'est là que les textes de Platon, les autographes existaient. Et là, je vous donne un élément qui est très important au point de la transmission des manuscrits. Or, ces textes originaux, on ne les connaissait pas. C'est sur des copies que les textes de Platon se sont transmis pendant des siècles. Et c'est un professeur de l'ULB, François Mazet, qui était, c'était un dominicain défroqué, hein, qui est devenu prof à l'ULB, et qui est un très beau paléographe et en même temps historien, qui a travaillé sur Platon. Il a écrit un livre sur Platon. Hein, c'est un des meilleurs livres sur Platon, c'est de Mazet. Et c'est lui qui a découvert les originaux. Et entre les originaux et les copies, il y avait des différences. Bon. Là, vous voyez le travail que les gens de la Renaissance ont fait, il est majeur. Parce que ces gens, travaillant sur les manuscrits, ont sauvé beaucoup de manuscrits et souvent, ils ont rétabli les textes avec des méthodes. Et vous vous imaginez, et je dis souvent, je travaille sur Aristote, je travaille sur Platon, nous travaillons sur des copies d'Aristote du 10e au 11e siècle, est-ce que ça a des rapports avec les originaux? Grande question. Mais je dis souvent, faisons semblant qu'on ne sait rien, c'est mieux. Parce que si on devait dormir tous les soirs en disant qu'on travaille sur des textes faux, on ne pourrait plus le travailler. Donc le cas de Platon est très intéressant parce qu'il a montré d'une façon très claire que souvent les copies ne sont pas nécessairement les originaux. Maintenant, l'élève de Platon, un des élèves de Platon, il ne l'a pas connu, mais un des disciples, quand Platon a été en Italie, lors du concile de Ferrara, il a fait beaucoup de conférences. Il a fait la promotion de Platon au détriment d'Aristote. Donc ça, c'est une pensée néoplatonicienne. Et à ce moment-là, certains Italiens ont été fascinés par cette pensée et ils ont créé l'Académie de Florence, c'est Ficin. Marcel Ficin est un disciple, mais un disciple chrétien. Lui n'a rien à voir avec le polythéisme. Mais il a, d'une certaine façon, été influencé par ce courant. Un autre penseur de l'époque très important, c'est Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, qui est aussi un penseur majeur de la Renaissance, ce qu'apporte Nicolas de Cuse, c'est l'importance de la coïncidence des contradictoires et de l'infini. Par exemple, si vous prenons ma main ici, vous voyez un triangle. Si j'augmente la base du triangle, les deux angles, et je les tire à l'infini, à un certain moment, il y a coïncidence et le triangle devient une droite. Si vous prenez une sphère et vous dites que cette sphère n'est pas limitée, mais elle est à l'infini, finalement, le diamètre lui-même devient une droite. Et ce qu'a montré, d'une certaine façon, Nicolas de Cuse, c'est qu'on arrive à des situations limites qui montrent la difficulté de la connaissance. Et que nous sommes limités. Et que la première chose que l'homme doit faire, c'est une critique de ses façons de connaître. C'est ce qu'on appelle la docte ignorance, hein, qui est son texte. C'est-à-dire que ce que l'homme doit faire, c'est voir quels sont les moyens qu'il se permet de connaître pour connaître la réalité. C'est ce qu'on appelle en philosophie moderne, depuis, la critique de la connaissance. Tous les penseurs modernes de cette époque, Descartes, les anglo-saxons, vont toujours prendre comme point de départ une critique de la connaissance. C'est pour ça que vous avez critique de la raison pure chez Kant, critique de la raison pratique. Hein. Vous avez essai sur l'entendement chez les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on fait une analyse de nos manières de connaître pour connaître. La difficulté, c'est ce que va montrer Hegel, hein, c'est que, contre Kant, que pour analyser nos façons de connaître, on utilise nos façons de connaître. Est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux? Et donc, c'est une question épistémologique, hein, qui va se poser. Mais vous voyez, à cette époque, nous avons des penseurs déjà très différents qui créent des pensées différentes et des méthodes différentes. C'est pour ça que je vais insister dans quelques instants sur ces questions de méthode. Bon, j'avance un peu en disant que ça, c'est les courants, en général, néoplatoniciens, platoniciens. En face de ça, vous avez les courants aristotéliciens. Je laisse les Grecs et je viens chez les grands penseurs de la Renaissance qui sont Pomponazzi, hein, d'une certaine façon, Agostino Nifo et d'autres penseurs. Hein. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur les détails de ces penseurs. Et je vous dis tout simplement, pour pouvoir avancer, nous avons tout un courant à l'époque de la Renaissance qui est très influencé de la philosophie arabe, les Averroïstes, et ceux qui s'opposent, qui sont souvent influencés par un penseur grec qui est Alexandre d'Aphrodise. Et donc, on crée des écoles différentes dans l'aristotélisme. C'est pour vous dire que finalement, vous voyez, en avançant, même avec Aristote et Platon, les écoles se multiplient. Nous avons énormément d'écoles différentes. Bon, j'avance et je vais plus loin. Le pluralisme philosophique, avec le retour à l'Antiquité, va se faire par des penseurs qui vont, les uns, choisir le stoïcisme, hein, c'est Juste Lips, qui vient de nos régions, c'est Gassendi avec l'épicurisme, c'est même des penseurs, Claude Gillermet de Béry-Char, qui revient à la pensée présocratique et aux atomistes. Et puis, il y a les sceptiques, hein, qui sont plutôt des éclectiques, comme Montaigne, Charon, Sanchez, hein, qui retournent à la pensée antique. Hein. Donc, vous voyez, il y a un retour. Ça veut dire que nous avons de plus en plus un pluralisme et donc une relativisation du christianisme. Le christianisme n'est plus monolithique. Il est en train, peu à peu, hein, de se relativiser. Bon, et je ne parle même pas du retour au Nouveau Monde. Et voilà, je vais m'arrêter maintenant à une seconde étape. C'est la suite, hein, ce que j'appelle le pluralisme philosophique. Et là, il y a les cinq penseurs que je vous mets en évidence et qui me permettent de dire, des penseurs que vous ne connaissez pas, que la plupart de mes collègues ne connaissent pas, et qui sont pourtant des très grands philosophes, et qu'on peut les mettre à la place et à la hauteur des philosophes contemporains ou des philosophes modernes, qui ont fait un travail remarquable à l'époque et qui est à la base de tout ce qui va devenir la philosophie moderne. Bon, ces penseurs sont un Allemand, Agricola, hein, donc c'est Rudolf Hössmann, c'est un Espagnol, Vives, c'est un Italien, Mario Nizzolo, c'est un Français, Pierre de la Ramée, et c'est un autre Italien, Patrizzi. Ces cinq philosophes vont introduire deux choses importantes. Bon, la première chose, c'est qu'ils vont mettre en question le caractère global de la notion d'être. Hein. Bon, je m'explique un peu. Hein. J'en avais parlé un peu quand on a parlé de saint Thomas d'Aquin. J'avais dit, et c'est ceux qui étaient là, j'avais insisté que l'originalité, l'importance de saint Thomas d'Aquin, c'est qu'il va revenir à Aristote, il va reprendre d'Aristote sa théorie de l'être. La théorie de l'être d'Aristote est représentée par différents modes de l'être qui sont les catégories. Par exemple, si je dis Socrate est blanc, Socrate en tant que Socrate est une substance. C'est une substance, première catégorie. Et je lui attribue Le blanc, c'est une qualité. Si je dis Socrate est grand, c'est une quantité. Si je dis Socrate est debout, c'est une position. Si je dis Socrate parle, c'est une action. Si je dis Socrate écoute, c'est une passion. Hein? Si je dis Socrate tient quelque chose, c'est une possession. Si je dis Socrate est dans cette salle, c'est le lieu. Et si je dis il est maintenant, c'est le temps. Si on prend l'ensemble de ces modalités d'être, on crée ce qu'on appelle l'ensemble des catégories, c'est la façon dont l'être se manifeste au point de vue du langage. Je suis en train de parler, j'ai créé des propositions. Socrate est ceci, Socrate est cela. Donc c'est le langage. Et en même temps, je manifeste le réel, puisque j'ai Socrate devant moi, avec sa couleur, sa grandeur, ainsi de suite. Et donc on crée un langage qui dit les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire l'être. C'est ce qu'on appelle l'ontologie. Et ce que va faire saint Thomas, il va faire en sorte que l'ontologie devienne le discours de toute la réalité. C'est lui qui va introduire pour la première fois cet ontologisme absolu. La seconde chose qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle la convertibilité de l'être avec l'un, le vrai, le bien et le beau. Ça veut dire ceci, qu'une fois qu'on dit l'être est le tout, et tout est être, y compris Dieu, Dieu lui-même est un être, ce qui est déjà une affirmation importante, puisque nous sommes dans une théologie positive. Dieu est être. Hein. C'est parce qu'on se base sur l'Exode, où il y a un passage du 13-14 de l'Exode, où il dit, Dieu dit, je suis celui qui suis. Si je dis je suis celui qui suis, je dis Dieu est celui qui est. Donc on met l'être à Dieu. Hein. Si je dis je suis celui qui suis, quand je parle de Dieu, je dis Dieu est celui qui est. Donc on dit Dieu est, donc il possède l'être. Et donc saint Thomas ose dire Dieu possède l'être. Et on n'est plus dans une théologie négative en disant on ne peut rien affirmer de Dieu parce que Dieu est au-delà de tout, y compris de l'être. Et c'est ça le néoplatonisme. Hein. Ce que dira aussi bien Platon et d'autres diront toujours Dieu est une unité au-delà de tout. Toujours une unité au-delà de tout. Eh bien saint Thomas dit non, Dieu est un être. À ce moment-là, la notion d'un, qui a été la notion clé dans toute la philosophie occidentale depuis l'Antiquité jusqu'à Platon, donc on est au XIIIe siècle, saint Thomas la met en question, et l'un devient le négatif de l'être, il se soumet à l'être. Ça veut dire quoi? Une fois que je prends le réel et je dis que Dieu crée la réalité en tant qu'être, il crée toutes les choses qui sont, donc ça c'est une chose, je suis une chose, toutes ces choses qui sont, toutes ces choses qui sont les ens, les temps, hein, les choses qui sont, étant créées par Dieu, ils deviennent chaque fois des objets de la division. Le réel devient multiple. Dieu divise le réel, il devient multiple. Et à la fin, la réalité, c'est quoi? Ce sont les individus. Ceci est individuel, je suis un individu. Et prenez le mot littéralement, individu, ça veut dire l'indivisible. Et donc, l'unité que je suis, l'unité de ceci, c'est le négatif de la division. Donc, c'est l'être en tant que son négatif. Donc, la notion d'unité n'est plus un au-delà de l'être, il devient le négatif de l'être. C'est l'être en tant que son négatif. Ça veut dire que l'être, c'est l'absolu. Et donc, ce que va dire saint Thomas, et c'est ce que vont dire tous les ontologistes, il y a convertibilité entre l'être et l'un. L'un est toujours de l'être. C'est la même chose avec le vrai, c'est la même chose avec le bien. C'est toujours de l'être. Et le vrai, c'est l'être en tant qu'il est connu, c'est la connaissance. Le bien en tant qu'il y a action. Mais c'est toujours de l'être. Bon, cette pensée globale de l'être, c'est celle que ces philosophes vont mettre en question, justement. Tous ces philosophes de cette époque vont la mettre en question. C'est une grande attaque contre la pensée de l'être. Et ils vont aller très loin. Par exemple, déjà Valla, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le précurseur de ces mouvements, même s'il n'a pas fait de véritables théories, va dire que l'être, ce n'est pas quelque chose d'important, et donc la dialectique qui parle de l'être, la philosophie qui parle de l'être n'est pas importante parce que c'est la rhétorique qui domine. Et dans la rhétorique, c'est la notion de chose qui est plus importante que l'être. C'est la chose. On arrive toujours à la chose. Donc il faut la différence entre chose et être. Parce que des choses, on peut avoir des choses aussi fictives. Des choses de parole. On peut avoir des métaphores dans les choses. En grec, d'ailleurs, le grec ancien, souvent le terme pragmata, pragma, donc la pragmatologie, a été utilisé dans le discours courant et les philosophes seuls parlaient de l'être. Parce que pragma, ça voulait dire ce dont il est question, une chose De quoi est-il question? De quelle chose parlez-vous, hein? Ce dont il est question. Donc la rhétorique va faire de la chose quelque chose de plus important que l'être. Donc ces penseurs vont attaquer l'être et vont dire ceci, et c'est ça qui est important. Ils vont dire, ce n'est pas l'être dans toutes ses formes qui est important, dans les 10 catégories, c'est la première catégorie qui est importante, la substance. La seule chose qui est importante, c'est la substance. Ce qui subsiste par lui-même. Et tout au plus, il y a la qualité et la quantité, tout au plus. Et donc, ils vont dire, le discours sur l'être, ce n'est pas important. C'est le discours sur les choses, puisque je viens d'en parler, hein, et le discours sur la substance. La seule réalité, c'est la substance. Eh bien, mine de rien, cette promotion de la substance modifie radicalement la pensée occidentale, ce qui fait la Renaissance, c'est important. Parce que tous les penseurs modernes, depuis Descartes jusqu'à Hegel, vont systématiquement parler de substance. Ils vont essayer de mettre entre parenthèses la notion d'être. Et je vous donne un petit tableau, comme ça vous voyez tout simplement ceci, c'est la suite de la pensée occidentale. Descartes, ici, va parler de deux substances. L'étendu, l'inétendu. Quand vous parlez de Descartes, on vous dit c'est le penseur du cogito. Je pense, donc je suis. Pourquoi je pense, donc je suis? Parce que c'est la substance inétendue et spirituelle. Mais il y a aussi, chez Descartes, et on l'oublie souvent, la substance corporelle. Il y a une seconde substance. Il y a un sujet. La substance, c'est un sujet. Mais la substance corporelle, c'est un sujet. Et même Descartes va aller plus loin. Il va considérer que la substance corporelle est autonome. Elle est productrice d'elle-même. C'est tout à fait nouveau. Et c'est la Renaissance qui va lui apprendre cela. Parce que dans l'Antiquité, chez Platon par exemple, seule l'âme est automotrice, pas le corps. Le corps est toujours soumis. Ce que fait Descartes grâce à la Renaissance, c'est de donner une autonomie au corps. Bon, les penseurs qui suivent, Spinoza va unifier la substance, il va faire une sorte de panthéisme, avec des attributs, des modes. Et Leibniz va faire des substances monadiques. Je n'ai pas mis son nom là, mais bon, c'est substance monadique, le 11 là, c'est Leibniz. Ce sont des atomes, substances, donc Dieu va régulariser. Et puis Hegel va aller plus loin, il va prendre la substance comme sujet, ça y est, la substance en devenir. C'est pour vous dire que ce que fait la Renaissance, c'est la mise en chemin, avec ces auteurs dont je suis en train de parler, la mise en chemin de toute la philosophie moderne, en fait. Donc on voit bien que la Renaissance n'est pas une pensée, les philosophes de la Renaissance ne sont pas aussi, je dirais, petits philosophes qu'on le dit. Tout simplement, on ne les connaît pas. Puisque c'est eux qui vont fonder cela. Donc, c'est la première chose que je voulais mettre en évidence. La seconde chose, maintenant, importante, c'est qu'en critiquant la dialectique au profit de la rhétorique, ils vont introduire tous les systèmes méthodologiques, parmi lesquels les mathématiques vont devenir importantes. Descartes va utiliser beaucoup les mathématiques dans sa méthode. Eh bien, le premier qui le fait, c'est l'Aramé, qui va utiliser... Les mathématiques, c'est l'Aramée. Et puis, il y a les deux penseurs intermédiaires, Vives et Nisolio, qui vont insister beaucoup sur l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fonctionner sur des systèmes métaphysiques. L'homme vit beaucoup avec l'expérience. Et donc, ils vont mettre en question une notion clé de la philosophie médiévale, qui est l'abstraction. Deux mots sur l'abstraction. Quand on parle d'abstraction... Et je me souviens tous les étudiants qui me disaient, vous savez, votre discours est très abstrait. Bon, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire très abstrait? Est-ce que ça veut dire abstrait au sens vide? Parce qu'effectivement, l'abstraction, quand on retire de la réalité, et la pensée mathématique disait Aristote, est certes très exacte, et elle est exacte parce que justement, elle se détache de la réalité. C'est pour ça qu'elle est exacte. Elle ne tient compte que de la quantité dans la réalité. Donc, moins que la réalité. Bon. Mais au fur et à mesure de l'histoire de la pensée, ce qu'ont fait les penseurs médiévaux, c'est qu'ils ont élargi la notion d'abstraction du côté de la physique et de la métaphysique. Par exemple, ce que je viens de dire, l'être en général, l'être en tant qu'un, en tant que vrai, en tant que bon ou en tant que beau, cet être en général, c'est la chose la plus réelle, parce que Dieu lui-même est être. À ce moment-là, l'abstraction physique et métaphysique complète l'abstraction mathématique. Ce n'est pas quelque chose de vide, c'est la réalité elle-même. Et donc la notion d'abstraction, et je me réconfortais égoïstement quand l'étudiant me disait « Votre pensée est très abstraite », je me disais « Ça veut dire qu'elle est très profonde ». Donc je renversais un peu la proposition. Parce qu'au Moyen-Âge, justement, l'abstraction, c'était la chose la plus profonde. Bon, mais justement, ce que disaient les penseurs de la Renaissance, cette pensée de l'abstraction parle d'une façon trop générale, elle ne tient pas compte de la réalité comme telle. Et donc, c'est revenu à l'empirique, aux choses mêmes, et il fallait partir de l'empirique. Or, dans l'époque contemporaine, un des penseurs qui était à la mode, Deleuze, par exemple, c'est un penseur qui est venu beaucoup à l'empirique. Beaucoup à l'empirique. Souvent, on revient à l'empirique quand on veut sortir des grandes pensées métaphysiques et générales. Or, c'est ce qu'ont fait les penseurs de la Renaissance. Ils ont mis en question ces grands systèmes en revenant à des choses concrètes, la rhétorique, au point de vue du langage, la substance et l'empirique. Et cela va créer un bouleversement profond. Et pour terminer, ces penseurs, je vais m'arrêter dans quelques instants, hein, peu à peu pour terminer ces penseurs, je laisse Patrice, qui est très important et qui revient à une pensée néoplatonicienne, mais j'avance un peu plus rapidement. Je laisse Machiavel, puisqu'il va être, disons, développé ici par une personne. Et je viens à l'influence de la médecine, parce que Paracelse va introduire une pensée qu'il va prendre comme modèle la médecine. En général, les penseurs, disons, comme Descartes et d'autres, et comme le fait la Ramée, prennent les mathématiques au modèle. Platon prenait aussi les mathématiques au modèle. C'est rare qu'on prenne la médecine comme modèle. Et vous avez un penseur de la Renaissance, Paracelse, qui va véritablement prendre la médecine comme modèle. Et il y a d'autres penseurs qui vont faire la même chose, c'est l'Hollandais Van Helmont. Bon, et pour terminer peu à peu, je fais un dernier pas. Un des événements de la Renaissance, on l'oublie, c'est la réforme. C'est la réforme. Bon, c'est un phénomène qui se passe au cours de la Renaissance, c'est Luther. Et là, ce qu'on regarde de près, la position de Luther, c'est une mise en question de la pensée médiévale et en même temps du système hiérarchique de l'Église qui est mise en question. Et c'est un retour vers une pensée chrétienne qui est celle de saint Augustin, au détriment de celle de saint Thomas d'Aquin. Donc c'est l'augustinisme. Et saint Augustin est le penseur aussi de la substance, même si Luther ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Ce que Luther s'intéresse, c'est surtout au problème du rapport de l'homme par rapport à Dieu. Et là, je fais une petite parenthèse. Contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit que le protestantisme a apporté le capitalisme. Hein. Et c'est une thèse surtout que Weber a mis en évidence. Et c'est tout à fait faux. Luther, au contraire, il est contre, justement, les œuvres et les biens. Et le capitalisme est né, au contraire, au XIIe siècle par le mouvement cistercien. C'est par Saint Bernard. Si on boit encore de la bière cistercienne, du vin dans la Bourgogne, c'est parce qu'en quelques années, Saint Bernard a fait 1000 monastères. C'est un système capitaliste. C'est là qu'est né le capitalisme. Non, le protestantisme, en réalité, c'est lié au capitalisme. Et là, c'est un phénomène géographique. C'est qu'à l'époque de la conquête du Nouveau Monde, il y a eu une concurrence entre les Portugais et les Espagnols. Et le pape, pour essayer de régler cette chose, il a fait le traité d'Ordesillas. Et il a accordé l'Amérique du Sud aux Espagnols et l'Afrique, les côtes, aux Portugais. Mais il avait oublié pratiquement l'Amérique du Nord. Il avait oublié, parce qu'on ne les avait pas encore découverts, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et ce sont les protestants qui ont été conquérir ces lieux. Encore que l'Amérique du Nord, c'était un peu mixte, hein, catholique et protestant. Mais ils ont conquis ces lieux. Et c'est cette ouverture au Nouveau Monde qui a transformé le protestantisme en capitalisme. Ce n'est pas le protestantisme qui a apporté le capitalisme, c'est que le capitalisme a fait en sorte que le protestantisme s'est transformé lui-même. Luther était un homme qui avait un rapport à Dieu. Hein, c'est important. Mais ces disciples comme Mélenchon, qui étaient des adeptes, ont créé un rapport philosophique par rapport à Aristote. Ce qu'a fait Mélenchon, c'est dire que la pensée de Luther n'a pas des assises métaphysiques. Il a essayé de donner des assises métaphysiques, tout comme par exemple le christianisme des origines, hein, les grands théologiens chrétiens de l'Église, comme Saint Basile, Saint Grégoire, ils ont pris la pensée grecque pour fonder le christianisme à l'époque. Mélenchon a fait la même chose. Il prend la pensée grecque pour fonder le protestantisme métaphysiquement. Et puis, dans cette école, il y a eu des dissidents, comme Calvin, le calvinisme, mais il y a eu aussi des penseurs opposants, comme Thomas More, hein, qui a créé l'utopie. Hein, donc, il y a eu aussi des penseurs. Hein. Et je termine par trois remarques, comme ça. Première remarque, c'est qu'il y a eu aussi un retour à la Renaissance vers la mystique allemande, celle de Maître Eckhart. C'est la mystique rhénane. Et il y a eu un français, Cardan, mais il y a eu surtout la pensée de Jacques Böhme, hein, qui est une grande mystique et de la Renaissance, mais en même temps déiste. Déiste, c'est-à-dire que c'est la nature qui fait le divin. Deuxième élément de la Renaissance, c'est la contre-réforme. La Renaissance a eu un coup d'arrêt après Luther, parce qu'avec la réforme, l'Église a réagi. Et avec la réaction de l'Église, et c'est en réalité le Concile de Trente, il y a un retour en force de la philosophie traditionnelle, celle de saint Thomas d'Aquin. Donc c'est très important de comprendre cela, c'est que alors que la Renaissance était en train de pratiquement démanteler le thomisme, de le modifier complètement, puisque je viens de dire que les auteurs de la Renaissance se sont tournés contre la scolastique, contre la pensée de saint Thomas, le Concile de Trente revient à la pensée de saint Thomas. Et ce retour va faire en sorte qu'un penseur de la Renaissance, c'est Goclenius, hein, je ne sais pas si je l'ai mis ici, et je crois que je l'ai oublié, mais je l'ai dans mes notes d'ensemble que vous allez trouver sur l'email. Hein. Goclenius, un penseur, en 1613, dans son dictionnaire de philosophie, va introduire pour la première fois, en 1613, le terme ontologie. Je viens de vous parler d'ontologie, comme si c'était un terme qui allait de soi à l'époque. Eh bien, non. Le terme a été introduit par Goclenius en 1613 dans ce dictionnaire sous le terme abstraction. L'abstraction, j'ai parlé de l'abstraction. Dans la rubrique abstraction, il a dit l'abstraction, c'est l'étude de l'être en général. Et il a utilisé le terme en grec, ontologia, et c'est la première fois que le terme est rentré. Et aujourd'hui, on parle d'ontologie comme si ça allait de soi. Et on parle d'ontologie comme si toute la pensée avant Goclenius parlait d'ontologie, alors que c'est en 1613 que le terme est rentré. Donc, à l'époque de Descartes. Ce qui montre qu'avant, le terme n'allait pas de soi et la théorie de saint Thomas n'allait pas de soi. Donc, ça veut dire que le Concile de Trente fait un retour spectaculaire à la pensée médiévale contre la Renaissance. C'est ça qui a fait que la suite de la pensée a été mixte. Tous ces penseurs que j'ai mis ici, qui sont certes des penseurs de la Renaissance avec la substance, beaucoup d'entre eux utilisent aussi l'ontologie. Beaucoup d'entre eux. Il y a eu un mixte. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de mariage entre la Renaissance avec la contre-réforme et le Moyen-Âge de la pensée thomiste. Et finalement, c'est saint Thomas qui va gagner. Puisque à la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII va instaurer la pensée de saint Thomas comme la pensée officielle de l'Église catholique à la fin du XIXe siècle. Ça veut dire que les ruptures par rapport au Moyen-Âge, celle de la Renaissance et puis de la pensée moderne, n'a pas marché au niveau de l'Église. C'est-à-dire qu'après Vatican I, hein, vers 1865 ou 69, je ne me souviens plus très bien, avec Vatican I, il y a un retour au passé. Et il a été confirmé à la fin du siècle par le retour au Moyen-Âge, surtout à la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et le thomisme a été une des pensées importantes jusqu'en 1945. C'est en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, que d'autres pensées ont surgi, et l'existentialisme, hein, et d'autres pensées via la phénoménologie. Bien. C'est un autre problème, hein, très intéressant au point de vue de cette histoire. Et le thomisme a pratiquement disparu, alors que, à partir de la fin du XIXe siècle, toutes les universités catholiques avaient des cours sur saint Thomas. Et les revues néo-thomistes circulaient partout. Donc il y a eu un phénomène extrêmement intéressant après 1945, hein, une modification complète. C'est pour vous voir que la Renaissance a été très importante pour une rupture, mais ça ne veut pas dire qu'elle a gagné, finalement, historiquement. Avec la contre-réforme, elle a pratiquement perdu. Bon, il n'empêche qu'il y a toute une histoire parallèle, hein, qui va créer une sorte de subversion de la pensée chrétienne, c'était la science. Parce que le lien entre métaphysique chrétienne et science du Moyen-Âge ne pouvait plus marcher ensemble, puisque la science moderne avec Newton va bousculer ce phénomène. Et donc il y a eu une sorte d'histoire parallèle qui s'est passée, c'est que alors que la métaphysique est restée médiévale, encore aujourd'hui, la science est émancipée. Elle n'était plus médiévale. On ne pouvait plus, par exemple, faire la science moderne avec la pensée d'Aristote et de saint Thomas. Ce n'était plus possible. Et cette rupture a fait en sorte que, finalement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a d'un côté une théologie de la révélation, et de l'autre côté, il y a la science. Et la théologie de la révélation, souvent, est séparée même de la métaphysique. Et la métaphysique, de plus en plus, est une métaphysique sans Dieu. C'est-à-dire qu'on a écarté Dieu. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je résume. La Renaissance n'est pas ce qu'on nous dit une pensée uniquement de l'homme, hein, comme nous avons dit. À la Renaissance, centralisation de l'homme. C'est plus compliqué. Et la théologie est bien présente. La pensée traditionnelle est bien présente. Mais il y a un glissement, c'est vrai, un glissement qui s'est fait où l'homme prend de plus en plus son destin en main. Mais il a fallu beaucoup de temps, hein, pour que ce destin, par exemple, politiquement, soit affirmé par la démocratie. Hein. Mais vous aurez l'occasion de voir déjà une dissidence qui était celle de Machiavel, hein, à l'époque. Mais il a fallu du temps. Donc on peut dire que la Renaissance a créé un petit déplacement grâce au phénomène de la production, la littérature, le retour à l'Antiquité, l'avènement du Nouveau Monde, hein, la découverte du Nouveau Monde, a relativisé finalement le christianisme. Et il a profondément modifié les assises de la pensée médiévale. Bon. Mais il n'empêche que, si vous avez suivi un peu de près ce que j'ai dit, la Renaissance possède en elle-même une potentialité et une autonomie qu'on ne s'imagine pas. C'est ça qui était important de mettre en évidence. Elle n'est pas une période de transition. Elle possède véritablement, et même je dirais, elle est l'assise de ce qui va apparaître dans la pensée moderne. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Je remercie aussi l'Ambrose Kouloubaritsis et je vous invite à poser des questions ou faire des commentaires tout en me rendant bien compte qu'après la densité, le caractère vaste de cet exposé, ça ne va pas forcément de soi.
Y a-t-il une explication au fait que tout à coup, l'influence grecque va disparaître du christianisme ? Entre la naissance du christianisme et la Renaissance, c'est-à-dire la redécouverte de la pensée grecque. Nous savons que le christianisme n'existerait pas sans ce contact avec la pensée hellénique au travers de Philon d'Alexandrie. Et alors, comment se fait-il ? Parce que, bon, il y a peut-être des raisons, c'est-à-dire que la religion catholique a toujours essayé d'éliminer toute influence en se considérant comme la seule et unique. Enfin, c'est pour ça qu'elle a tenté, pendant jusqu'à présent encore, de faire disparaître l'importance du judaïsme dans la pensée catholique. Est-ce qu'ils ont agi de la même manière pendant cette période vis-à-vis des Grecs ? C'est un peu la question que je voulais poser.
Non, c'est plus compliqué. Le christianisme, en réalité, Et c'est une synthèse entre la pensée juive et la pensée grecque. Philon d'Alexandrie crée la première synthèse. Bon, Paul, par exemple, on peut considérer que c'est un philosophe romain. Il est formé à la pensée grecque. Et tous les penseurs chrétiens, donc Justin et tous les autres, et tous les théologiens Origène et d'autres, ne pensent que relativement à la pensée grecque. C'est-à-dire que le christianisme en lui-même a trouvé ses assises métaphysiques dans la pensée grecque. Donc on peut dire qu'elle a suivi toujours avec un cran de retard. C'est pour ça qu'il y a des christianismes. Par exemple, le néoplatonisme. Pour prendre, bon, historiquement, ça commence comme ceci. On a d'abord une influence stoïco-platonicienne, ce qu'on appelle le moyen platonisme, parce que la pensée romaine est une pensée qui fait la synthèse entre le stoïcisme et le platonisme. On appelle ça moyen platonisme. Puis, les Grecs vont plus loin. C'est le néoplatonisme, c'est Plotin. Ils vont faire en sorte que Dieu est absolument transcendant. Les chrétiens vont faire la même chose, avec Saint Basile, Saint Grégoire, Saint Augustin. Et puis, les Grecs vont plus loin. Ils vont créer un polythéisme organisé. On a une organisation des dieux par triade. Dieux intelligibles, dieux intellectifs, dieux intelligibles, intellectifs, dieux hypercosmiques, tout ça. Bon, le christianisme va suivre cela, va remplacer cette hiérarchie par hiérarchie des anges. Ça, c'est Denis l'Aréopagite dont je fais allusion, pseudo-Denis. Donc, il suit. Et tout le Moyen-Âge est chaque fois dans le christianisme, soit Aristote, soit Platon, soit des deux. Il y a un concordisme souvent. Bon, mais c'est vrai que, une fois qu'Aristote a été récupéré par saint Thomas, à partir de ce moment-là, ce n'est plus tellement Aristote et Platon qui sont importants. Le christianisme de la scolastique va trouver une certaine autonomie. Tout en se référant aux penseurs grecs, on se réfère dans les textes, et on élimine de plus en plus les penseurs grecs, on élimine même certains textes des penseurs grecs. La physique n'intéresse plus beaucoup, ainsi de suite. La logique intéresse toujours, hein? La logique d'Aristote intéresse toujours. Et c'est cette disparition d'une thématique directe des Grecs que la Renaissance va faire exploser en revenant à l'Antiquité. Mais pas à l'Antiquité seulement philosophique, on vient à l'Antiquité de tous les textes, des historiens. Donc les historiens viennent aux historiens, aux institutions. Donc c'est tout ce dit. Et donc le retour dans l'Antiquité se fait globalement, avec une profusion, un foisonnement, alors qu'on était passé dans une pensée restreinte. Et ce retour vers l'Antiquité globale, gréco-romaine, hein, ce n'était pas seulement les Grecs, alors qu'avant, souvent, c'était les Grecs. Encore qu'au XIIe siècle, les textes de Sénèque et de Cicéron étaient revenus. C'est des pensées, il y avait un retour au moyen platonisme. Donc les Grecs n'ont jamais disparu, tout simplement. Mais ils sont revenus en masse. Et ce qui a fait la Renaissance, en réalité, c'est le fait qu'on a travaillé aussi les textes d'une façon philologique et sérieuse, et ça crée une profusion. Et on a commencé à prendre des positions au niveau des écoles des textes, au niveau des manuscrits. Et peu à peu, ça a ouvert des dialogues et ça a fait exploser pratiquement le système chrétien en lui-même en tant que pensée unique, si on veut. Il y avait d'autres pensées qui n'étaient pas chrétiennes, finalement, à côté. Et donc, les Grecs n'ont jamais disparu, les Romains, mais il est vrai que historiquement, et la Renaissance a apporté une fraîcheur absolument nouvelle. Et puis, la présence des mythes anciens. Au Moyen-Âge, on n'utilisait plus les mythes anciens. Ça crée aussi, au niveau de l'art, de la littérature, une sorte de foisonnement assez important. Donc, on a l'impression d'un monde nouveau qui explose, en fait, hein, qui explose, qui apporte beaucoup de choses.
Alors, je vais en poser une en demandant comment la réforme a influencé la philosophie par la suite.
Bon, elle a influencé la philosophie. Bon, d'abord, elle a beaucoup influencé la philosophie dans la mesure où il n'y avait plus l'exclusivité de la papauté. Bon, c'était très important puisque au Moyen-Âge, même lorsque on n'était pas d'accord au niveau philosophique, on avait différentes tendances et on ne mettait pas en question le système hiérarchique de l'Église. Hein, ça a été, ici, bon, il y a une explosion. Donc, géographiquement, déjà en Europe, et il y a des pays qui ont commencé à philosopher d'une façon non plus catholique, mais je dirais presque non plus chrétienne. Bon. Et quand je dis ça, c'est important, parce que dans le sens où le christianisme s'était restreint souvent au déisme, hein, beaucoup de penseurs ne pensaient plus au Christ. Et Dieu existe. Je dis souvent, les États-Unis aujourd'hui représentent une image un peu caricaturale de ce qui s'est constitué à l'époque. Aux États-Unis, on a plusieurs religions et souvent on a beaucoup de religions monothéistes. Bon, les Américains prennent Dieu comme référence, mais on ne sait jamais si c'est lequel de Dieu qui est pris comme référence. Parce que quand on est chrétien, c'est le Christ qui est important. Quand on est catholique, il y a une référence à la hiérarchie ecclésiastique, la papauté. Quand on est orthodoxe, c'est le lien entre et religion et nation. Bon, aux États-Unis, c'est pas ça. On met la main sur le cœur et on parle de Dieu. On parle de Dieu en général. Et là, effectivement, à la Renaissance, on a un peu ça. Et c'est pour ça que je dis, attention, on ne met pas en question Dieu à la Renaissance. Hein. C'est un mythe. Hein. Et la Réforme apporte une autre vision du divin. Et donc, une partie des philosophes allemands sont entrés dans le sillage du protestantisme. Et donc, la vision qu'ils ont donnée de la philosophie était autonome par rapport à la Trinité, souvent dogmatique, et avec le filioque, par exemple, hein, et d'autre part, elle était aussi autonome par rapport à un rapport entre l'Église et les institutions. Et souvent, c'était au niveau de la conscience que ça fonctionnait. Le thérianisme, c'est au travail de la conscience. Et puis, il y a un autre aspect, c'est le sacerdoce. Il ne faut jamais oublier le sacerdoce des femmes. Dans l'Église catholique orthodoxe, et même anglicane, jusqu'à récemment, le sacerdoce des femmes était interdit. Bon, l'Église protestante a créé le sacerdoce universel. Donc, ça modifie. Et les philosophes ont été influencés souvent par cette idée d'universalisation. Quand on prend les philosophes post-spinozistes, hein, parce que Spinoza est un juif à la base, même si bon, on peut discuter longuement ses rapports avec le judaïsme, et les philosophes de l'idéalisme allemand souvent sont beaucoup plus influencés de l'image protestante du christianisme que celle de la tradition catholique. On n'a pas, quand on lit Fichte, on ne voit pas très bien la présence de la hiérarchie ecclésiastique à l'intérieur. Hein. D'autant plus que Fichte est franc-maçon, en plus. Donc, il a une autre vision des choses. Et quand on voit Hegel aussi, le système hiérarchique disparaît. Et donc, il y a des modifications. Je crois qu'il y a une grande influence du protestantisme sur les modifications. Quand on prend Kierkegaard, c'est un protestant. Donc, même aujourd'hui, par exemple, il y a des penseurs qui sont très influencés. Ricoeur, qui est protestant. Et son problème, lui, c'est un problème justement profondément protestant sur le statut du mal. Il passe un temps fou pour essayer de justifier des textes comme celui de Job au détriment de celui de la Genèse. Et parce que celui de la Genèse, avec le péché originel, implique le problème de la rétribution. Et alors que celui de Job, il est beaucoup plus gratuit. Et quand on regarde de près des penseurs comme Ricoeur, on se rend compte que tout son travail herméneutique a une visée, c'est justifier la Bible, finalement, quand on regarde de près à la loupe. Hein, et tous ces travaux, la culpabilisation, tout ça, sont profondément liés à ces problèmes. Mais quand on regarde aussi de près, ce n'est plus le catholicisme traditionnel, c'est autre chose. Hein. Donc, moi, je crois qu'il y a eu une très grande influence philosophique du protestantisme. Maintenant, il y a eu aussi, peut-être, c'est que le protestantisme étant multiple, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on est dans le protestantisme, hein, il y a plus de 100 tendances dans le protestantisme. Hein. Il n'y a pas 100 tendances dans l'orthodoxie. Il y en a très peu dans l'orthodoxie. Il y a l'orthodoxie russe, il y a l'orthodoxie grecque, gréco-serbe, ainsi de suite. Quelle est la différence? Elle est importante. Là, on sent un peu. L'orthodoxie russe est née au 9e siècle. Elle vient d'une tradition non philosophique, donc d'une religion païenne du sentiment. Donc, elle est beaucoup plus mystique, elle est beaucoup plus vécue. L'orthodoxie grecque, serbe, tout ça, vient de tradition métaphysique. On est dans la hiérarchie ecclésiastique, dans tout ça. Bon, ces deux orthodoxies ne sont pas les mêmes. Même si la Russie est rentrée dans le système hiérarchique, le vécu est très différent, parce qu'on ne s'occupe pas de métaphysique derrière. Donc, les philosophes russes créent une spiritualité qui n'est pas la même que celle qui vient de la tradition. C'est pour ça qu'en Grèce, par exemple, beaucoup qui veulent revenir aux origines du christianisme prennent comme modèle la Russie. Parce qu'ils disent, là, il n'y a pas la métaphysique. Et la haine à l'égard de l'Occident, c'est le fait qu'il y a trop de métaphysique dans le christianisme occidental, il y a trop de politique, c'est-à-dire l'Église a un pouvoir politique, et donc il y a trop d'actions modernes. Alors que l'orthodoxie est verticale. Je crois dans le protestantisme a apporté quelque chose qui était proche de cette verticalité et donc a beaucoup influencé les gens en dehors du système hein, extérieur. Donc, pour terminer là-dessus, je dirais que quand on regarde de près maintenant, ils sont rares les penseurs qui s'occupent beaucoup du christianisme, comme Ricoeur, par exemple. la plupart ont fonctionné en dehors, comme si Dieu n'existait plus. Hein. Il y a Lévinas qui vient du côté du divin, il y a Ricoeur, mais quand on regarde Deleuze, Derrida et beaucoup d'anglo-saxons, ils fonctionnent comme si le divin n'existait pas. On n'a plus de métaphysique derrière. Et quand il y a des métaphysiques actuellement, et c'est une identification entre métaphysique et éthique. Et c'est, en fait, c'est ça qui fait aujourd'hui. Quand on est chrétien, on est croyant, on dit la métaphysique, c'est l'éthique. Et ça, c'est une tendance ancienne, en fait, hein, qui vient. La métaphysique, c'est l'éthique. Mais je ne crois pas que la métaphysique, c'est l'éthique, hein, personnellement. Moi, je crois que la métaphysique, la structure technico-économique, a pris la place de Dieu, en réalité, aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de religions, si l'on veut, dans le monde. Mais ce qui gouverne véritablement la structure métaphysique du monde aujourd'hui, elle n'est pas divine, c'est le système techno-économique. Et celui-là, bon, on le sent tous les jours, hein, avec les crises, tout ça, c'est ça la véritable assise. Et l'invisible aujourd'hui, ce n'est pas Dieu et l'invisible. Et l'invisible aujourd'hui, c'est tout le système techno-économique qu'on ne voit pas. Et le sacré et aujourd'hui des objets, ce n'est plus ça, c'est la marchandisation du monde. Hein. Ce qui surcharge l'objet, c'est que chaque chose coûte. Hein. Dans le temps, on disait ceci, c'est de l'eau bénite. Ce n'est pas de l'eau bénite. Hein. Il suffisait d'un rite pour qu'elle devienne bénite. Et on rentrait dans un lieu, et c'est un lieu sacré, c'est l'église. Bon, quand on veut transformer cette église en lieu de colloque, on la désacralise. Donc on enlevait, on mettait du sacré. Aujourd'hui, tout est économique. Ça a pris la place du sacré. Donc on est dans une structure qui est néo-théologique. Hein.